Notre-Dame, toute mes différences.
Longueur d'onde.
Tant de chance.
L'émission qui réunit les générations.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième émission qui a pour thème la solidarité. Cécile Fromont, micro, responsable de l'association Hors Limite, et Stéphane Boursier à la régie. Radio Prévert accueille aujourd'hui Marie-Noël, Christiane et Raymond de la Maison des Seniors à Chalon-sur-Saône, ainsi que quatre élèves du collège Jacques Prévert. Nous accueillons donc Nina, Ilana, Quentin et Lana. Lors de la dernière émission, nous avions échangé sur les discriminations et aujourd'hui nous allons aborder le thème de la solidarité, qu'elle soit individuelle ou collective. Nous parlerons également de la solidarité écologique et de bien d'autres choses encore. Alors, je vais commencer par une petite question pour vous. Qu'est-ce que la solidarité ?
J'ai envie de dire que la solidarité, c'est être solide, entre guillemets, être tous ensemble, former un tout. Voilà, que ce soit avec ses proches, puisqu'on va parler de la solidarité individuelle, que la collectivité, la planète, voilà, tout un ensemble.
Les jeunes, vous avez une proposition, qu'est-ce que c'est pour vous la solidarité ?
Bah, pour moi, c'est aider les personnes qui en ont besoin, et pas forcément que ceux qui en ont besoin, tout le monde en fait.
Alors c'est vrai, quand tu dis aider les personnes, c'est pour avoir ce mouvement d'aider, il ne faut pas être égoïste, c'est-à-dire il faut penser aux autres, les aider, c'est la solidarité humaine.
Est-ce que vous avez une définition sinon plus générale ? Christiane, toi, tu nous avais dit quelque chose l'autre jour, comme quoi la solidarité, ça vient du cœur. Ça, je trouvais que c'était...
Ah, ça vient du cœur, c'est de l'altruisme, en fait.
Voilà.
Oui, c'est effectivement, comme tout le monde l'a dit, c'est être ouvert aux autres, les aider sans attendre de retour. Voilà, moi, je vois ça comme ça.
Oui, Marie-Marie. Le contraire, en fait, de l'indifférence. Regarder autour de soi et apporter de l'aide, si possible.
Moi, j'ai envie de dire que c'est un terme qui était ancien. On retrouve dans certains actes notariés qui datent de très longtemps, in solidum, il me semble que c'est la traduction, et qui était remis à la mode ces dernières années. Je vais parler, par exemple, le RSA, revenu de solidarité active, alors que le principe de donner une allocation à quelqu'un existait. Voilà, la maison des solidarités. On a remis ce mot à la mode, alors qu'il existait auparavant. Alors, est-ce qu'on en parle plus ? Est-ce qu'on en fait plus ? Je ne sais pas. J'aimerais peut-être avoir votre avis. Alors que solidarité, ça existe depuis tout le temps. Ça devient un mot du langage qu'il faut employer et qu'on a remis au goût du jour. Alors, est-ce que ça se pratique plus ? Je ne sais pas, ça.
Bah oui, par exemple, dans une classe, il y a des élèves, certains... ils viennent chercher les autres qui sont seuls pour les aider ou enfin savoir plus pour, par exemple sur quelqu'un.
Moi je pense que oui, on en parle peut-être plus parce que je sais que rien que déjà au collège on nous parle de la solidarité, on nous explique tout ça et je pense que c'est important aussi de nous expliquer un petit peu ce que c'est même si on le sait un peu, voilà.
Moi je pense qu'on en parle plus comme on parle plus de tout. Il y a beaucoup plus de moyens maintenant d'être informé, de parler de ce qui se passe, quoi. C'est... comme toutes les infos, enfin c'est multiplié maintenant.
Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de choses, parce que d'une part c'est vrai que ce qu'évoque Raymond sur ce terme de solidarité qui revient un petit peu aussi dans des noms de dispositifs de politiques publiques, hein, c'est vrai que ça revient. Je veux dire, maintenant on a souvent un service solidarité, cohésion sociale, vivre ensemble, c'est aussi un terme qu'on voit beaucoup, hein. C'est vrai que là, bon, on n'a pas spécialement prévu d'en parler dans cette émission, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même tout cet aspect un petit peu institutionnel qui est effectivement la protection sociale, l'emploi, les indemnités de chômage, etc., les impôts, bon voilà, tout ça, je veux dire, ce sont des mesures de solidarité qui sont mises en place par l'État à un niveau institutionnel, etc. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est toute une partie, et c'est pour ça aussi, je pense, qu'on retrouve aussi ces termes de plus en plus, hein, solidarité, lien social, etc., et qu'on s'emploie aussi peut-être de plus en plus à faire en sorte que ce soit une valeur que s'approprient les citoyens. Hein. D'ailleurs, on parle aussi de plus en plus de citoyenneté. Donc c'est vrai que ce terme, alors je ne sais pas si c'est de dire qu'il revient à la mode, mais en tout cas, je veux dire, c'est une valeur en tout cas, qui est très présente aujourd'hui dans notre société.
Et puis on le voit dans la création de nombreuses associations d'entraide, des associations de toutes sortes, comme Lire à l'hôpital, n'est-ce pas ? Sur Chalon, par exemple, ce sont des gens qui proposent des livres aux patients, ou alors qui livrent des livres dans différentes maisons de retraite, etc., dans différentes EHPAD. Et aussi, parlons aussi de la Croix-Rouge, par exemple, les pompiers. Ça, c'est aussi une sorte de... Enfin, c'est surtout de la solidarité, aider le prochain.
Oui, puis les Restos du Cœur, enfin, toutes ces associations qui sont créées. Je ne sais pas si on a parlé de la Sécurité sociale, mais ça en fait partie aussi. Oui, c'est ancien, c'est de 47, hein, donc 46, enfin, c'est... Voilà, comme moi.
Alors, vous pratiquez un petit peu dans ces associations solidaires, je dirais, est-ce que certaines d'entre vous pratiquent, participent un petit peu à ce type d'action ?
Je connais, dans mon village, il y a plusieurs associations, les Amis de Farge, et puis les associations des parents d'élèves, qui aide l'école en fait à donner de l'argent pour qu'ils fassent des voyages.
Après nous c'est vrai que avec notre âge on a une barrière, on peut pas forcément aider toutes ces associations là en fait.
Ça je sais pas, je sais que les Restos du Cœur on peut quand même participer. Après oui ça dépend peut-être des associations. Je sais pas s'il y a des associations justement pour les adolescents ou justement
être solidaire. C'est ce que disait Marie-Noëlle, effectivement. T'as mis le terme égoïsme, mais à part il y a l'argent effectivement qu'on peut donner à des associations très reconnues, mais il y a ce qu'on fait au quotidien qui ne coûte rien, de dire bonjour, de s'intéresser, de partager l'espace, de partager le temps, de partager le geste naturel de se dire oui ben il y a le voisin ou il y a les voisines ou il y a les enfants ou il y a les personnes âgées ou il y a des personnes plus en difficulté et je les considère comme faisant partie de la société au même titre que moi et on fait des choses ensemble, des fois des tout petits parcours. Je pense que pour moi c'est ça aussi la solidarité, c'est pas forcément toujours être militant et engagé dans une association hyper reconnue. Il y a la solidarité qui ne se voit pas. Alors, y compris, on va l'aborder avec la planète ou avec l'écologie, avec tout son environnement. C'est à tout le monde. La route est à tout le monde, la ville est à tout le monde, la planète est à tout le monde et il faut que chacun ait sa part. Après, la solidarité, on peut dire aussi avec le plus lointain, je pense qu'on est beaucoup plus sensible maintenant. Je vais parler des richesses naturelles qu'on va chercher dans les pays lointains sans s'occuper si on les prive d'eau ou de ceux dont ils ont besoin. Voilà, on va prendre nos téléphones portables, par exemple, où les composants arrivent de je ne sais pas quel pays, mais on pense qu'on a besoin de notre téléphone, mais on ne s'inquiète pas trop si sur place, les gens qui extraient... je ne sais quelle matière
pour les fabriquer
ont de l'eau, un salaire, etc., etc. Je pense que c'est un peu tout ça, la solidarité. Enfin, pour moi, c'est un peu tout ça. On est là, mais il y a aussi ce qui se passe. De l'autre côté.
Oui, c'est vrai qu'après, je veux dire, il y a une question de prise de conscience collective aussi, je pense, comme le dit Raymond, alors par rapport au téléphone, par rapport aux vêtements qu'on porte, je veux dire, voilà, de regarder s'ils sont fabriqués par des enfants ou par des personnes qui sont exploitées dans des pays du tiers-monde ou pas. Voilà, on achète ou on n'achète pas, je veux dire, quelque part, c'est... je ne sais pas si on peut appeler ça une forme de solidarité, mais en tout cas, je veux dire, je pense qu'il y a quand même de plus en plus une prise de conscience voilà, par rapport effectivement à notre environnement, par rapport à une certaine humanité aussi. Et vous, au collège, je veux dire, on vous parle de solidarité, on vous incite à la pratiquer, ou de quelle manière elle peut se manifester? Je veux dire, ça peut être aussi à l'école, ça peut être par rapport aux devoirs, c'est des choses aussi toutes simples,
On peut être solidaire en aidant les personnes en difficulté. Donc, par exemple, en maths, s'il y a quelqu'un qui a plus de difficultés que d'autres, aller les voir, les aider et donner des conseils. On peut aussi aider à faire des devoirs. Quand on est en études, si on voit quelqu'un pas réussir, on va vers lui et puis on l'aide à faire, sans spécialement lui donner toutes les réponses, mais en aidant à lui faciliter le travail.
Voilà, ça c'est vrai que c'est une forme de solidarité, effectivement.
C'est vrai que là, elle parle de l'exemple de maths, et moi j'ai pensé à la même chose. En maths, nous, on est, les profs connaissent notre niveau, donc ils nous mettent en fonction de notre niveau, à côté de quelqu'un qui a peut-être un moins bon niveau que nous, pour qu'on puisse l'aider. Et je trouve que ça, c'est bien, parce que du coup, moi, à côté de moi, il y a quelqu'un qui est peut-être moins bon que moi en maths, et quand il comprend pas, il va me demander, je vais lui expliquer, sans lui donner les réponses, mais l'aider, quoi.
Oui, et ça, c'est quelque chose, c'est bien déjà de créer aussi les conditions, quelque part, je veux dire, pour être dans cette situation d'aider l'autre, hein, de pas toujours non plus être en concurrence, mais d'être justement dans l'entraide. Est-ce que vous trouvez que ça vous apporte à vous aussi? Parce qu'à mon avis, je veux dire, ça marche pas que dans un sens. Je veux dire, même si c'est vous qui allez aider un élève qui est peut-être moins bon que vous dans une matière, est-ce que vous trouvez que ça vous apporte aussi?
Bah oui, ça nous apporte parce que ça aide à aller voir les gens, à aller parler et s'exprimer. Oui, donc on reste pas seul dans un coin.
Et ça crée un climat de confiance, je pense, entre vous. Et puis de respect aussi. Celui qui va moins bien, on peut l'aider à aller mieux. Et puis voilà.
Après, dans l'exemple des mathématiques, enfin, ou d'autres exercices, de devoir expliquer à quelqu'un d'autre, ça permet à soi de permettre qu'on a compris et de s'améliorer. Donc, je pense que c'est un peu donnant-donnant. C'est une bonne formule pour celui qui explique et pour la personne qui n'a pas compris ce qui était dit par le prof, d'avoir, je pense que on emploie d'autres termes, on s'y prend d'une autre manière, et ça, c'est certainement plus facile, plus compréhensible de recevoir de quelqu'un, d'un autre élève, des informations d'un autre élève ou des explications d'un autre élève que du prof. Donc je pense que c'est formateur enfin que ça profite aux deux, voilà.
Oui, tout à fait.
C'est très bien. Moi, je pense que ça n'existait pas tant que ça dans notre époque. On était peut-être plus dans la... Voilà, moi, j'ai compris, moi, j'ai fait, moi, je suis bonne élève, bon.
Il y en a toujours aujourd'hui, quand même, hein.
Mais on était plus dans la concurrence, je pense.
Compétition,
oui, pardon.
Alors, moi, j'ai fait pendant plusieurs années du bénévolat au SAMU social, tout en travaillant. Je faisais ça le soir, et ça m'a permis d'être meilleur, d'une part, et de relativiser aussi. Parce que on est quand même... Enfin, moi, je me plains pas trop, mais on est quand même dans un pays où les gens se plaignent. Et là, quand on aide des gens qui sont pour la plupart dans la rue, ça, oui, ça aide à relativiser, puis à voir ce qu'on a, puis à s'en contenter, en fait.
Et quand tu dis ça aide à être meilleur, hein?
Ben oui, parce que je suis...
C'est de satisfaction.
Oui, je suis contente. Ça m'a fatiguée, mais je suis contente d'avoir rencontré des gens comme ça, de connaître un peu leur parcours, qui sont pour la plupart intéressants et enrichissants.
Tu as donc fait le SAMU social. Je crois que tu participes aussi à Lire à l'hôpital.
Oui, alors le SAMU social, j'ai arrêté pour diverses raisons. J'ai fait plusieurs années. Et là, je suis bénévole à la bibliothèque de l'hôpital. Comme le disait Marie-Noël, on distribue des livres dans les chambres, à la maternité, aussi, elle l'a dit, dans les EHPAD, chez certaines personnes qui sont seules aussi, chez elles. Et j'ai une amie, une autre bénévole qui lisait aussi pour une dame qui ne pouvait plus sortir.
D'accord,
c'est intéressant, ça passe par la culture, c'est bien. Ouais. Mais dans les quartiers, ça fonctionne énormément. Il y a un grand partage. Moi, j'habite dans un quartier populaire et je trouve qu'il se passe énormément de choses.
Ah oui, quoi ouais, donc, par exemple?
Il y a des bibliothèques, il y a la maison de quartier, il y a des jeunes qui ont un circuit pour faire du hip-hop, il y a des fêtes, je peux pas tout nommer, mais il y a une laverie solidaire, il y a plein de choses comme ça.
C'est quoi une laverie solidaire?
Ben, c'est une laverie où des bénévoles lavent le linge des gens pour une somme modique.
D'accord, donc il y a des machines à laver,
oui,
mais
c'est comme en ville, mais c'est plus humain parce qu'il y a quelqu'un. Oh. Voilà.
Mettre les pièces dans la machine.
Partage un café, voilà, et puis voilà. On attend que son linge tourne. Enfin, il y a plein d'opérations. Hein.
Il y a les jardins solidaires aussi.
Alors, il y a des jardins solidaires, j'en ai visité un à Saint-Marcel il n'y a pas longtemps.
Alors, ça se passe comment les jardins solidaires? Vous pouvez nous dire un peu?
Enfin, il y a quelqu'un qui dirige le jardin et emploie des personnes qui ont des parcours un peu chaotiques au travers du travail manuel, du jardinage. Ça leur apprend un petit peu le métier. Et ils sont encadrés aussi par divers professionnels qui les aident à reconstituer un CV, à faire des recherches pour retrouver du travail, pour se réinsérer, quoi.
Emmaüs, c'est un peu le même principe, non ?
Oui, Emmaüs, c'est le même principe.
Oui, Emmaüs, c'est grandiose sur Chalon-sur-Saône. Il y a déjà eu des reportages télévisés, enfin, sur les grandes chaînes. Et c'est vrai que moi, j'ai eu affaire plusieurs fois au personnel d'Emmaüs, et en fait ça aboutit à des contrats de travail. En fait, moi c'est le premier magasin, si j'ai besoin de quelque chose je trouve à 50 centimes, je fais travailler, je donne autant que je prends, que j'achète.
Vous connaissez Emmaüs, les jeunes?
J'en ai déjà entendu parler.
Oui, c'est pas très loin d'ici, hein, je crois. Oui. C'est à côté.
Mais au niveau de l'emploi, moi, je voudrais dire qu'effectivement, il y a, enfin, la solidarité devient obligatoire au niveau de l'emploi. Nous sommes seniors. Moi, je suis senior retraitée. Et c'est vrai que je me dis, c'était précipité de quitter le travail. Mais en même temps, je suis quand même contente, entre guillemets, d'avoir laissé ma place. Ça fait un poste pour quelqu'un parce que, les personnes de 20, enfin la tranche 20-30 ans, c'est toujours difficile, galère en CDD, de CDD en CDD, et après il y a toutes les entreprises aussi qu'on appelle entreprises intermédiaires ou qui peuvent porter d'autres noms, qui permettent à des personnes qui pour X raisons sont éloignées de l'emploi, eh ben d'avoir un salaire, d'avoir des cotisations sociales et d'être utile, parce que souvent quand même quand on travaille, c'est pas forcément que pour l'argent, c'est se sentir utile. Et moi je sais que j'ai recours quand même à ces associations quand j'ai besoin de quelqu'un ponctuellement pour du bricolage, pour des choses que je ne sais pas faire. Alors après, c'est compliqué parce qu'on travaille pas comme avec un artisan. Et je sais que j'ai eu à faire des travaux de peinture et de réfection. Ça a duré très 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 longtemps. J'ai pris mon mal en patience en me disant voilà, si ça avait été une entreprise ordinaire,
Je n'aurais pas été si patiente.
Oui, mais bon, puisque voilà, je m'étais engagée, et ben j'ai pris oui, mon mal en patience. Oui, bon, au niveau du travail, la solidarité, je pense qu'il faut qu'on soit bien présent dans le coin de notre tête,
oui,
comme dans d'autres domaines.
C'est vrai que c'est un bel exemple entre effectivement laisser sa place pour les suivants et par ailleurs effectivement faire appel aux associations de réinsertion ou voilà qui permettent à certaines personnes de se remettre sur les rails, voilà, quitte à ce que bon le travail soit peut-être pas forcément celui d'une entreprise professionnelle à 100%.
On écoute maintenant le nouvel hymne des Enfoirés, On Trace, une chanson écrite par Vianney.
Longueur d'onde,
l'émission qui réunit les générations.
Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface, Dieu j'en ai connu.
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nous maintenir. On trace.
Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider? On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, nous maintenus. On trace.
simplement. Ensemble, ensemble, tout 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 simplement. Ensemble, 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 ensemble.
L'émission qui réunit les générations.
Vous êtes toujours sur Radio Privert, nous parlons toujours de la solidarité. Vous pouvez peut-être expliquer un petit peu ce que c'est qu'Emmaüs, parce que vous en avez parlé sous l'aspect emploi, mais vu qu'ils ne savent pas ce que c'est, vous pouvez peut-être leur dire ce qu'on y trouve, pour ceux qui connaissent.
On y trouve de tout. Emmaüs, créé en 1954 par l'abbé Pierre. Et donc, en fait, le principe, c'est d'avoir des objets, des livres, des meubles à disposition pour ceux qui n'ont pas trop d'argent, des vêtements aussi, puisque, mettons, un t-shirt coûte 1 euro, et c'est tout à fait potable et remettable, et etc.
Ce sont des dons.
Oui, des dons, oui.
Moi, je sais qu'après Emmaüs, je donne souvent mes habits, puis les jeux que j'utilise plus. Oui, bah moi aussi, les habits que j'utilise plus, enfin qui me vont plus, plutôt que... Soit on les vend pas cher, nous-mêmes, mais vraiment pas cher, ou sinon on les donne pour Emmaüs.
Ah, bah vous connaissez alors finalement. Oui. Mais vous n'êtes jamais allé
dans le magasin.
D'accord.
Après, il n'y a pas que Emmaüs, il y a aussi d'autres, il y a le Secours Populaire, il y a Relais, il y a d'autres...
Il y a la Croix-Rouge.
Il y a d'autres associations, mais qui se sont structurées dans les mêmes années pour récupérer des choses et puis en faire profiter d'autres personnes et puis employer des personnes, leur rendre leur place de citoyens, de travailleurs ou d'intermédiaires.
Voilà, on est un petit peu aussi dans une lutte aussi contre une surconsommation, hein, où on est aussi dans le recyclage, hein, de pas toujours tout jeter, de recycler, de reprendre les objets, de prolonger leur vie, hein, alors qu'on est connu une époque quand même où on était dans le bon à jeter et un petit peu à tout va. Hein, donc là, l'idée, c'est quand même aussi de faire durer les choses le plus possible et puis dans une démarche solidaire, d'en faire profiter aussi les plus démunis. On a abordé la solidarité plutôt individuelle, les associations d'entraide avec les Restos du Cœur, le SAMU social. Ah, on n'a pas parlé de la solidarité avec les migrants. Je crois qu'il se passe pas mal de choses à ce niveau-là à Chalon-sur-Saône. Je crois qu'il y a plusieurs associations également qui existent pour accompagner des migrants qui sont arrivés sur la ville. On a parlé des jardins solidaires. On a parlé un petit peu de solidarité intergénérationnelle. Alors, quelque part, c'est vrai que quand vous parlez d'aller visiter certaines personnes aussi, des personnes âgées avec les livres, vous allez visiter, vous, parfois, des personnes, ou est-ce qu'il y a une solidarité un petit peu entre générations? Bon, après, je veux dire, ça peut être familial, ça peut être avec les voisins, avec... je veux dire, c'est vrai qu'on a aussi ces solidarités un petit peu de proximité, hein, qu'on pratique presque sans se poser la question. On a aussi les actions médiatiques, les mobilisations pour les causes d'intérêt général. Hein, donc là, c'est vrai qu'on a quelques exemples assez frais suite à la catastrophe.
Les attentats.
Il y a les attentats. Hein, il y a eu... Toutes les marches qu'on a pu avoir, hein, les marches solidaires, hein, Je suis Charlie, vous en connaissez d'autres un petit peu
Pour le climat, récemment.
Vous, au niveau des collèges, non, il n'y a pas des marches où... Je sais qu'au niveau des lycéens, il y a parfois des mobilisations qui touchent peut-être plus directement les lycéens.
Après, c'est vrai que nous, au collège, on est quand même vachement encadrés et on ne peut pas vraiment...
Vous ne pouvez pas sortir non plus quand vous voulez.
Donc, et c'est plus
pareil.
Compliqué.
Oui, le week-end pareil. Alors, on a eu... effectivement les marches pour Je suis Charlie, hein, ça je crois que ça a vraiment été quand même au niveau national une marche très importante. Il y a eu des marches pour les hommages aux victimes d'attentats. Il y a eu aussi des collectes de fonds. Hein. Bon, là, on est plus effectivement dans des actions médiatiques hein, qui font appel à la solidarité. Hein. Je pense par exemple, on a eu Notre-Dame de Paris. Hein. Bon, là, ça a été un peu particulier puisqu'on a eu des donateurs d'office et bon, après, voilà, d'autres choses aussi. Le loto du patrimoine, par exemple, avec Stéphane Bern, sans faire de pub, mais. Voilà, je veux dire où ça, c'est pareil, c'est là, c'est pour défendre un patrimoine, voilà, que ça, chacun se sente un petit peu responsable aussi du patrimoine. C'est vrai que le patrimoine, bon, il appartient pas à quelqu'un en particulier, hein, mais bon, voilà, c'est ce qui constitue aussi un petit peu notre mémoire, le patrimoine de notre pays. Vous avez d'autres choses aussi auxquelles vous pensez?
Ouais, je pense, voilà, il y a des actions de solidarité qui se manifestent, mais qui sont festives. Et je pense au Téléthon, qui existe maintenant. On ne pense même plus que c'est pour le Téléthon, parce que, enfin, c'est souvent, voilà, c'est festif, c'est à manger, c'est à boire, c'est de la musique, c'est des marches et tout. Et souvent, il y a des personnes qui vont à une manifestation, mais qui ne pensent même plus spécialement, enfin, mais dans le bon sens du terme, qui vont par plaisir et qui ne vont pas spécialement, bah, tiens, que pour faire le geste. Bon, bah, les Restos du Cœur aussi ont des manifestations un peu festives et on participe autant pour la cause que pour le plaisir d'y participer. Bon, je pense qu'il y en a certainement d'autres aussi et qui après restent du coup dans les... oui, ça devient la date est marquée. Voilà, on sait que le Téléthon, c'est début décembre et... D'autres choses. Je pense que vous avez peut-être d'autres exemples comme ça qui ont été initiés à un moment donné, puis après se répètent.
Oui, c'est vrai qu'on a les concerts caritatifs hein, pour les Restos du Cœur, oui, par exemple, hein, où tous les chanteurs, musiciens, etc., vont produire une chanson, un album, un disque, et dont les bénéfices seront reversés pour une cause.
À Chalon aussi, on a une marche pour le cancer du sein.
Oui. Mmh. La vague rose. Oui, octobre rose,
pas
tout à fait.
Pas forcément qu'à Chalon même, parce que moi, je sais que dans mon village, par exemple, depuis peut-être 3-4 ans maintenant, on fait la marche aussi. On peut s'inscrire pour la Chalonnaise.
Oui, voilà, c'est voilà. La Chalonnaise. Vous l'avez faite, toutes les deux?
Pas cette année, parce que j'étais en béquille, mais moi, je la fais.
Oui, oui, tout à fait. Effectivement, cette marche solidaire qui mobilise de plus en plus de monde, hein, c'est énorme.
Hein. Je voulais dire aussi que pour le Téléthon, il n'y a pas que la manifestation qu'on voit à la télévision. Pendant 2 jours, notamment à Chalon, parce que j'habite là, des bénévoles donnent plusieurs heures de leur temps pour répondre au téléphone pour les gens qui donnent de l'argent pour le Téléthon par correspondance.
Ah oui.
Voilà, ça se passe dans la grande salle de la mairie et les bénévoles changent toutes les 2 heures, mais pendant 2 jours, c'est actif, quoi.
Toujours dans l'idée d'être solidaire et d'être festif, c'est vrai que la Chalonnaise, du coup, comme il y a, enfin, surtout quand il y fait beau, il y a beaucoup de monde, tout le monde est en rose, il y a les parapluies, il y a plein de choses autour et c'est vrai que du coup, c'est, comment dire, c'est pour la bonne cause, mais on y va quand même aussi, parce que voilà, tout le monde, je pense qu'on peut s'y reconnaître facilement dans cette manifestation. Oui, c'est entre guillemets, c'est joli, voilà. Enfin, c'est joli, c'est agréable.
Oui, et puis je pense à un esprit un peu communautaire aussi, oui, oui. Du fait que tout le monde se mobilise pour une même cause, tout le monde est en rose, etc. Enfin voilà, je veux dire, ça crée du sens collectif aussi, quoi.
Oui, puis il y a un esprit de partage, parce que même si on n'est pas touché soi-même, on connaît des gens dans notre entourage qui sont atteints par le cancer du sein, notamment.
Tout à fait. Ouais. Moi, je pense aussi au don du sang, les choses comme ça. Je veux dire, c'est un petit peu aussi... Ce sont aussi des actions solidaires, moins spectaculaires, c'est sûr. Mais voilà, je veux dire, ça aussi, ça en fait partie. Nous allons aborder la solidarité écologique. Alors, est-ce que ça vous parle, la solidarité écologique?
Bon, moi, j'ai envie de dire, oui, c'est le partage de l'air, de l'eau, de la terre, de la planète... Et puis de notre environnement, et c'est important, oui, c'est enfin de se garder le plus longtemps possible en en bon état ou en meilleur état possible, et que chacun ait sa part d'air à respirer, chacun ait sa part du gâteau de la terre et de ses productions, et de pouvoir le transmettre la génération future.
Oui, voilà, je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience, en fait, sur l'interdépendance des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Hein, je veux dire, là, c'est vrai qu'on commence sérieusement à s'en inquiéter, un peu tardivement. Hein. Les gens commencent à en avoir vraiment, vraiment conscience. Hein. La solidarité écologique, hein, c'est un concept, en fait, qui est apparu pour la première fois dans un projet de loi sur les parcs nationaux de France en 2004, et où on parlait du classement d'un parc national qui manifestait une volonté politique de donner une forte visibilité nationale et internationale à un espace, d'y mener une politique exemplaire et intégrée de préservation et de gestion, mais aussi d'éducation à la nature et de récréation, et de transmettre effectivement aux générations futures un patrimoine dont le caractère d'exception est préservé. Il reconnaît la complémentarité, la solidarité écologique, économique et sociale, de fait, entre le cœur de cet espace et son environnement géographique immédiat. Hein, donc je pense qu'il y a un petit peu cette idée d'un espace préservé. Là, on en parlait pour un parc, hein, pour un parc national, mais je pense qu'on a largement élargi le concept justement à la planète, hein, et d'être vraiment aussi dans cette conscience de cette interdépendance entre la vie des êtres vivants avec leur milieu, et avec effectivement toute cette éducation, toute cette prise de conscience par chacun pour préserver effectivement cette planète pour les générations futures. Les causes du réchauffement climatique, est-ce que vous connaissez un petit peu, vous en avez entendu parler les jeunes? Vous avez été sensibilisés un petit peu à l'écologie, je pense.
Oui. Donc oui, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, rien qu'à la télé déjà, on en parle beaucoup.
Et alors, qu'est-ce qui cause un petit peu ce réchauffement climatique? Qu'est-ce qui pollue un peu notre planète?
Le gaz à effet de serre.
Oui.
Rejeté par les usines et
les transports.
Déjà la fabrication de l'électricité, nous on voit ça en physique en ce moment, et rien que ça, on voit que ça pollue énormément de gaz à effet de serre, enfin ça rejette beaucoup de gaz à effet de serre.
Oui, tout à fait, donc les industries, l'élevage intensif aussi, hein, mmh. C'est une cause, la circulation automobile, le surplus de consommation, effectivement, d'électricité dans les bâtiments, dans les habitations.
Alors, il y a quand même quelque chose qui est fait par rapport à l'électricité, l'éclairage public, qui l'amplitude horaire est vraiment diminuée et dans toutes les communes et villes de France, je pense.
Et remplacée par des LED, souvent.
Remplacée par des LED, oui.
Moins consommateur. C'est vrai qu'on a, on le sent beaucoup, ça, au niveau d'éclairage public, c'est vrai. Et donc, les conséquences, hein, bon, on a effectivement le réchauffement climatique, les baisses de ressources en eau, la disparition aussi de certaines espèces animales et végétales.
Pour remédier à tout ça, chacun peut avoir un compost, faire attention au recyclage plastique, carton, etc. Et aussi acheter par des circuits courts, c'est-à-dire aller sur les marchés ou dans les magasins, mais acheter vers les producteurs, donc du producteur au consommateur, circuit court, donc moins d'intermédiaires. Et tout le monde s'y retrouve, je pense, budgétairement, et on peut discuter avec le producteur. Je veux dire, c'est un pas de solidarité aussi que d'aller vers les producteurs.
Il y a aussi, alors sur les marchés, mais il y a aussi les producteurs qui font directement la vente à la ferme, mais dans la production animale, ça se fait, dans la production légumière, ça se
aussi,
fait.
Ouais.
Et c'est tout à fait possible. Voilà, on est à Chalon et on fait au maximum 20 km. Et je pense que, mis à part le café, effectivement, on peut pratiquement, je pense, tout trouver selon les saisons. Alors, on va peut-être pas trouver les fruits de la mer, mais sur le marché de Chalon, je crois que c'est un ostréiculteur qui fait le trajet directement dans la nuit depuis la côte atlantique pour être sur le marché de Chalon. Hein. Après, bon, mis à part les produits de la mer, je pense qu'on peut trouver pratiquement tout dans une périphérie.
Et la viande, j'ai été interpellée l'autre jour par un producteur de viande, de bovins et tout. Donc, il vend sur le marché avec sa viande, les morceaux de viande pré-emballés, donc à consommer, même pas tout de suite. Donc, je veux dire, il y a un dialogue, il y a une démarche écologique entrepris.
Et donc par rapport à ça, outre la qualité et avoir l'origine du produit, on a très peu pollué entre guillemets en transport, puisque que ce soit amené sur le marché de Chalon ou que les Chalonnaises soient déplacées, ils ont très peu consommé de carburant. Il n'y a pas eu de gros camions. Enfin, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde.
Je vous propose une petite pause musicale avec Aux arbres citoyens de Yannick Noah.
Longueur d'onde,
l'émission qui réunit les générations.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses,
oh, ça, citoyen,
il est grand temps qu'on propose
un monde pour demain.
Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses.
L'émission qui réunit les générations.
Vous êtes toujours sur Radio Prévert et nous parlons aujourd'hui de solidarité et donc la solidarité écologique.
Et vous les jeunes, vous faites quoi, vous, dans votre quotidien pour limiter un petit peu ces dépenses en énergie, en pas mal de choses? Vous parliez tout à l'heure de compost, quand
vous cuisinez. Compost, tout ce qui est tri, des déchets, donc les déchets recyclables et non recyclables. Je pense que c'est important de bien savoir recycler, quoi.
Après, à la cantine, je ne sais pas si vous avez été sensibilisé. Je sais que ça se fait dans certains collèges, hein, un petit peu cette politique zéro déchet. Vous en avez entendu parler?
Non.
Je n'ai jamais amusé à peser les kilos de pain jeté, les restes, etc. Hein, dans certains établissements, ça se fait justement pour sensibiliser les élèves aussi au gaspillage, hein, de pas prendre trop quand on sait qu'on ne va pas manger, de ne pas prendre trop de pain, etc. Enfin voilà, je veux dire, ça, c'est des choses toutes simples qui se font aussi dans le quotidien.
Au niveau du gaspillage alimentaire, c'est vrai qu'il y a eu tellement d'abondance partout que il y a plein de choses qui sont ou pas vendues et puis qui sont jetées. Alors maintenant, de la même manière qu'on peut récupérer des déchets, il y a certains magasins qui mettent à disposition des associations qu'on a déjà dit par rapport aux invendus qui sont soi-disant périmés, mais peut-être encore consommables. Mais au niveau des cantines ou des restaurants scolaires, moi, je n'ai pas connu les libres-services. Et c'est vrai qu'on avait un plat et on se partageait le plat. Avec les libres-services, je pense que la tendance était de se servir beaucoup parce que on a faim et après, on a moins faim. De ne faire des portions adaptées et de ne prendre que ce qu'on a besoin, je pense que c'est important pour éviter que les aliments partent à la poubelle. Donc la juste dose. J'étais à l'école primaire dans une cantine de village où les parents participaient à apporter les produits, les pommes de terre, certains légumes selon les saisons. Une année où il y avait beaucoup de même si c'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfants à l'école mais qui avait beaucoup de salades, eh bien il donnait ses salades. Le menu n'était pas planifié un mois à l'avance, mais s'adaptait à ce qui était donné et il y avait déjà moins de gaspillage et c'était mieux. Enfin, j'ai l'impression que c'était mieux réparti. Et maintenant, je m'aperçois qu'on refait ça dans les cantines, de prendre des salades de roux sur Saône, qui sont fabriquées localement, qui sont produites pas fabriquées localement. Voilà, c'est quelque chose qui revient plutôt que de demander à un grand fournisseur qui vient avec un grand camion, qui a certes des tarifs peut-être très intéressants, mais j'ai l'impression que ça revient.
C'est vrai. Nous, la semaine dernière, on a eu une semaine où dans le menu on avait des trucs qui venaient c'était que du local quoi, la plupart du menu était local, mais après je pense que il y a certains, enfin nous je sais que le cuisinier des fois il va nous inciter à prendre des trucs et alors qu'on n'a pas forcément faim et qu'on va pas le manger, et des fois je trouve que c'est dommage qu'il nous incite à prendre quelque chose alors qu'on va pas le manger, qui va finir à la poubelle. Vaut mieux le garder, le lendemain il peut être mangé et quelqu'un qui en aura vraiment envie pourra le manger quoi.
Il y a aussi dans les écoles primaires surtout, je connais ma mère, elle travaille dans une école et les CP ils faisaient un petit jardin où il y avait des salades, des tomates et plein de choses comme ça, et ils mangeaient ça à la cantine parce que la cantine était juste à côté de l'école, donc ils donnaient et en entrée souvent ils nous disaient qu'ils mangeaient la salade qu'ils avaient plantée.
Oui, mais je pense que c'est une forme de sensibilisation aussi, de sensibiliser des gens justement au fait de produire soi-même et de voir un petit peu l'évolution, de privilégier les circuits courts également. Je pense que c'est une chose importante d'être dans la juste mesure. Alors, on parle de la cantine, mais dans certains restaurants maintenant, on choisit son assiette petite, moyenne, grande, en fonction de la faim qu'on a. Je veux dire, c'est pas un plat qu'on sert. On sert la même chose à tout le monde. On choisit la taille pour limiter le gaspillage. Et ça, je pense que ça se fait de plus en plus. Je pense que ça se fait de plus en plus aussi sur les festivals, hein, où on est aussi dans une démarche assez éco-citoyenne. Hein, dans un autre domaine en quittant l'alimentation, hein, on parlait tout à l'heure justement des toilettes sèches, hein, pour limiter justement les besoins en eau. Bon, c'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus comme ça sur les festivals et qu'on voit aussi de plus en plus se développer.
Au niveau de l'alimentation et du restaurant, maintenant il est admis qu'on puisse emporter. On n'a pas terminé son assiette, le plat était bon, mais on peut emporter. Oui. Voilà le reste.
Oui, c'est une bonne chose de pouvoir emporter plutôt que de jeter. En consommation d'énergie aussi, vous êtes un petit peu sensibilisé à ça, sur la gestion de l'eau, l'électricité, quand on se lave les dents, quand on éclaire partout.
Personnellement, je fais ça depuis que je suis toute petite et c'est pas des gestes que j'ai. Les gestes pour moi ils sont quotidiens, c'est normal. D'éteindre la lumière quand tu sors, de pas laisser l'eau couler, toutes ces choses-là, je pense que c'est quelque chose que moi je fais depuis toute petite, donc qui est pour moi normal, un automatisme.
Oui, je pense que c'est une habitude à prendre, effectivement, et en fait on se rend compte que finalement ça nous coûte rien de le faire. On fait des économies d'énergie finalement sans s'en rendre compte. Après, on a effectivement la gestion des déchets, que ce soit les détritus alimentaires, végétaux, on a parlé du compost, il y a la limitation aussi sur les emballages, je crois que là aussi les grandes surfaces commencent à être sérieusement sensibilisées sur la question, d'ailleurs les sacs plastiques et puis même les emballages à proprement parler des aliments quoi, où parfois je veux dire on est quand même dans une surenchère d'emballages, de pubs, etc. Je pense que là on passe aussi un petit peu à une autre ère, en quelque sorte, par rapport à cet aspect de la consommation.
Les emballages, moi je pensais par exemple au yaourt ou je sais pas. Est-ce que réellement on a besoin d'avoir ces petits pots, autant de petits pots et tout, comme si on n'était pas capable de gérer, d'avoir un plus grand pot et on prend la dose qu'on a besoin. Voilà, j'achète pas les compotes ou les, enfin toutes ces choses qui sont individuelles. Alors c'est très pratique à emporter, c'est très pratique dans certaines situations, mais au quotidien je sais pas, c'est toujours effarant de voir des rayons pleins d'emballages avec effectivement du contenu. Alors bon, quelquefois on est capable de se mettre 3-4 cuillères de compote dans une assiette,
mais c'est aussi une mode quand même pour les emballages individuels pour les enfants. C'est une mode. Les parents dits modernes achètent des pommes potes ou je sais pas quoi. Donc les enfants sont très heureux avec ça à la bouche parce que ça fait bien, c'est la mode. Donc après, les parents vont pas se promener, comme dit Raymond, hélas, vont pas se promener avec un bocal de compote.
Moi, pour revenir sur le yaourt, le plus souvent, les pots de yaourt, je les recycle en pots à crayon.
D'en avoir un paquet.
Bah oui, ou les pots en verre, en fait, qui sont facilement lavables, tout ça. Ça peut être réutilisé. Moi, je sais que je fais un peu de peinture, donc ouais, pareil, je donne mon pot en verre et puis je mets de la peinture. Ou sinon, je sais que ça va être recyclé. Ou ma maman, vu qu'elle est instite, c'est pareil, elle les garde.
Oui, il y a le recyclage, effectivement, voilà. Tout ce qui est emballage. Il y a également tout ce qui est électroménager, hein, également, pas toujours jeté, mais je pense que de plus en plus, on va vers la réparation.
Les ressourceries, oui. Voit le jour maintenant.
Oui, oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est?
Je crois aussi que ce sont des dons de meubles, de bibelots, choses comme ça, qui emploient aussi des gens en situation un peu précaire et qui vendent à moindre coût. Et il existe aussi, je ne sais pas si on en a une ici, mais il y en a une à Dijon, c'est une association qui répare les appareils ménagers, là, comme tu disais, ou les téléphones, enfin bon, pour éviter encore de consommer davantage. Quoi.
Ouais.
Ouais, ça se répand maintenant. Ouais. Et puis pour en revenir à l'alimentation, moi je vais dire un petit peu ce que je fais. Je n'achète pas de fruits ni de légumes qui ne sont pas de saison. Parce que, bon, des cerises quand on est au mois de janvier ou des fraises, je ne sais pas quand, en décembre, c'est un peu. Enfin, ça me heurte, je ne le fais pas. Je ne jette pas mes papiers sur la voie publique. Je prends des douches, je trie mes poubelles. Voilà, des petites choses, mais.
Bon, ouais, c'est vrai.
Depuis quelques années, je suis quand même plus sensibilisée à ça. Et néanmoins, je trouve qu'on a encore beaucoup, beaucoup trop d'emballage. Pour une petite bricole de rien, on a un machin en plastique.
Pour revenir sur les fruits et légumes, en plus, le fait de pas manger des fruits et légumes de saison, souvent, ils ont pas de goût, ils sont pas bons. Et je pense que c'est pareil, nous, on essaye d'acheter vraiment que des choses qui sont de France en fruits et légumes. Mmh. Je pense que c'est aussi important pour éviter, par exemple, s'ils viennent de loin, il y a les avions, les camions qui font encore plus de transport.
Moi, j'ai vu une vidéo il y a quelques temps en Andalousie, en Espagne, où ils cultivent des tomates et en fait sous des bâches de plastique, et le plastique, il se retrouve tout dans la mer.
Oui, on a les grandes serres, on a l'élevage intensif, hein, pareil, la tendance est un petit peu aussi à réduire la consommation de viande, hein, bon, d'une part pour protection des animaux, mais aussi par rapport aux élevages intensifs qui polluent la planète.
C'est vrai que le plastique qui se retrouve dans la nature, alors que ce soit dans la mer ou dans la saune, les plongeurs ont ramassé plein de choses, mais au niveau de la mer, une baleine était retrouvée avec une quantité énorme de plastique qu'elle avait ingéré. Et c'est vrai que nos poissons de mer, on peut dire qu'ils sont pleins de saleté, de plastique et plein d'autres choses, de tout ce qui existe. Et le rejet des déchets. Alors, les recycler, c'est bien, mais tout le monde ne fait pas des pots à crayon avec avec le plastique. Et on en trouve plein dans la nature, c'est vrai. Et ça, c'est très dommageable.
Alors, on a parlé un petit peu de culture intensive. On n'a pas encore évoqué la permaculture. Hein.
Vous allez visiter l'année dernière un immense jardin à côté d'Autun. Je crois que c'est Curgy, le petit village, où tout fonctionne avec la solidarité. Certaines fois, ils font des portes ouvertes pour vendre un peu leurs produits, mais la terre, c'est la terre, avec des choses de compost qu'ils mettent dessus. Il n'y a pas de terreau, il n'y a pas de cochonnerie pour faire pousser trop vite. Et ils emploient aussi des jeunes un petit peu en difficulté, quoi. Et d'ailleurs, ils ont quand on voit du ciel, ils ont un magnifique mandala.
Ah oui.
Ouais, c'est à voir. Quoi.
Le jardin qui a une forme de mandala.
Il y a un mandala à l'intérieur du grand jardin, et c'est tout cultivé avec des buttes en fait. Les tomates sont dans des buttes, mais c'est que de la terre et puis du compost. Enfin, c'est des petites choses naturelles, quoi.
D'accord. Et ils vendent là-bas?
Ils vendent sur place aussi. Et je vous assure que les fruits et les légumes, ils sont deux fois plus gros que sur le marché. Hein. Ils sont très beaux. Il n'y a que l'arrosage. Mais l'arrosage même, si je me souviens bien, c'est avec un bassin où il y a des poissons, des carpes, je crois, qui servent... Enfin, il y a tout un système que je ne sais pas raconter, mais avec des tuyaux qui reviennent dans les rangées. Enfin, c'est
récupération d'eau de pluie.
Voilà, oui.
D'accord.
Comme les immeubles aussi, la énergie positive qu'on voit de plus en plus maintenant.
C'est un nouveau quartier à Chalon,
oui, où les immeubles, enfin les appartements sont triplement isolés avec des baies vitrées. Chacun a son petit jardin, ils sont sur pilotis, donc chacun a son petit jardin en bas, et l'eau de pluie est récupérée par les chéneaux et tombe dans des citernes. Voilà, mm-hmm. On bénéficie de ça pour arroser les jardins. On a également un bac de compost à notre disposition. Enfin, voilà. Il y en a de plus en plus qui fonctionnent comme ça.
Maintenant. Oui, c'est vrai que c'est quoi ? C'est des éco-quartiers, éco-immeubles. Mais oui, c'est un concept qui se développe également.
Et les deux architectes, ce sont un homme et une femme qui font des... Il faudrait regarder. Ils s'appellent Lacaton et Vassal. Et ils ont fait plein d'immeubles en France. Et d'accord. Ils recyclent. Ils ne font pas que du neuf. Ils se mettent au bout d'un immeuble qui n'est pas en très bon état et puis ils recyclent. Et c'est très, très, très aéré. C'est
très agréable à vivre.
Ouais, ouais.
On évolue.
Oui, on bouge.
On bouge quand même. Les choses bougent. Il faut qu'elles bougent encore un peu plus.
Oui, dans Chalon, à propos d'éco-quartier, c'est sur Saint-Jean-des-Vignes, je pense que vous situez à peu près, il y a des maisons. Enfin, c'était conçu il y a déjà peut-être bien 20 ans maintenant, ce quartier. Donc voilà, la maison, la petite cour et les garages sont éloignés et le petit bout de jardin au bout, dans ce quartier entre la poste de Saint-Jean-des-Vignes et tout. Moi, je sais que j'étais allée voir par curiosité, donc ça avait été pensé pour que, voilà, il y a la maison, son petit coin de verdure. On est éloigné de la route qui permet aux jeunes enfants de circuler, il n'y a pas de danger. Moi, le jour où je suis allée, il y avait des personnes qui jouaient aux boules dans leur ruelle. C'était une autre manière d'habiter et en ville et dans la nature.
Et ça crée de la solidarité aussi, parce que quand on est plusieurs en bas à faire son petit bout de jardin,
ça crée des liens,
il y a des échanges.
Bien, bel exemple. Bien, et bien, on va terminer sur cette note positive cette émission sur la solidarité. Et cette émission conclut par ailleurs notre cycle Longueur d'onde, l'émission qui réunit les générations. Donc c'est la 6e émission que nous avons faite donc avec les élèves du collège Jacques Prévert, avec les seniors de la Maison des Seniors. Le projet a été porté par Hors Limite en partenariat avec la Maison des Seniors à Chalon-sur-Saône et bien sûr Radio Prévert, que nous remercions. Il a pu être réalisé grâce au soutien et la participation de Médéric Malakoff à Agir Carco. Merci à Stéphane Boursier, l'animateur de Radio Prévert, qui a permis l'enregistrement et le mixage de ces émissions. Merci aux collégiens pour leur curiosité, leur spontanéité et leur intérêt. Et un grand merci également aux seniors d'avoir pris le temps d'échanger, de partager leur savoir et leurs expériences avec les jeunes pour ce projet intergénérationnel qui, je l'espère, en appellera d'autres. Au revoir et à bientôt sur les ondes de Radio Prévert.
Je te donne toutes mes différences.
Longueur d'onde.
Autant de chance.
L'émission qui réunit les générations.